CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Johan pour le mag de CFM le midi. C'est CFM Caylus, un rayon de soleil en plus. Aujourd'hui, nous recevons un auteur, écrivain. Son premier ouvrage, c'est la biographie de sa mère. L'ouvrage s'appelle Lola, une histoire de la guerre d'Espagne à partir de la retirada en 39, qui aboutit au camp de Jude à Sept-Fonds et dans le Tarn, où cette famille s'est implantée après la guerre d'Espagne. Eduard Barthes Oriol est un enfant de la première génération après, il est né en France. Et s'il n'a pas voulu barber ses enfants avec cette histoire, il s'est dit, il faut quand même transmettre, laisser des traces. Et il a interrogé ses parents lui-même et il a écrit cet ouvrage, Lola, qui dédicacera samedi de 10h à 18h à la librairie Tabac Presse Paroul à Caylus. Eduard Barthes Oriol, tout de suite après quelques infos locales. Hier soir s'est tenue la première assemblée de la communauté de communes Kersirouergue et Gorges de l'Aveyron. André Massat, ancien président, était réélu président pour un troisième mandat. Le conseil communautaire a voté 6 vice-présidents. Christian Maffre est élu, le maire de Caylus, est élu au développement économique, il était le seul candidat. À l'environnement, service technique, ordures, voirie, guide des riverains, Gilles Bonsang, maire de Loz, était seul candidat. Et donc a été élu avec 36 voix sur 38. À l'agriculture, au tourisme, lien avec le pays, création, espace, test filière, PPAM, Denis Ferté, le premier adjoint de Saint-Antonin, par ailleurs conseiller régional, seul candidat, élu avec 32 voix sur 38. Au service à la personne, les écoles, CLSH, petite enfance, transport, prévention des conduites à risque, il y avait 2 candidats. Frédéric Restéjean, maire de Parisot, a été élu avec 30 voix contre Guylaine Martinez, maire de la Guépie, qui en a obtenu 7. À l'aménagement du territoire, PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, l'habitat, les façades, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, c'est Daniel Durand, maire de Verfeil-sur-Seille, élu avec 35 voix. À la communication, la culture, le réseau de lecture publique, le relais des services publics, le site internet et le rapport avec les associations, il y avait 2 candidats. Émeline Laméra, maire de Mouillag, a été élue avec 24 voix contre Max Hervieux, maire de Casals, qui en a obtenu 11. Le bureau élargi sera dorénavant composé de tous les maires des 17 communes de la communauté et siégera avant chaque conseil communautaire. Nous recevons maintenant Eduard Barthes Oriol. Est-ce que je l'ai bien prononcé?
Oh oui.
Oui, Eduardo, non?
Non.
Même pas.
En catalan, c'est Eduard.
Ah, Eduard, évidemment. Alors voilà, on a tout dit déjà, il est catalan. Alors il est catalan quoi, par son père et par sa mère, pas par sa naissance?
Non, mes 4 grands-parents sont catalans et tous du même village ou du village à côté.
Mais quand je dis pas par la naissance, parce que vous n'êtes pas né en Catalogne.
Eh non, je suis né dans les coteaux du Tarn, au-dessus de Saint-Nofari. Mais c'est déjà le Tarn et c'est le canton de Salvagnac.
Et en quelle année, si je peux me permettre?
En 41, 2 ans après.
En 41, donc un fils de catalan né en 41 en France, qui se définit comme catalan, ça veut dire que ses parents, eux, ils sont venus en 1939.
Ils sont arrivés tous les deux en février 39, pas ensemble, mais séparément.
Et pourquoi on parle de vous ici? Parce que vous venez de publier un livre qui s'appelle « Lola, des sources du Llobregat au coteau de l'OTAN ». En fait, vous racontez l'histoire de votre famille, en particulier de votre maman. Et puis, à travers ça, pour expliquer toutes les pérégrinations, vous racontez une bonne partie de la guerre d'Espagne.
Oui, enfin, une guerre d'Espagne très soft, parce que mon père n'était pas dans les bataillons de combat, il était dans l'intendance. Donc, ce que j'en ai connu, c'est uniquement l'intendance, les problèmes d'intendance, plus que de la guerre.
Oui, mais en même temps, on voit bien, vous le dites d'ailleurs en préambule, il s'agit de laisser des traces pour les prochaines générations.
Mais c'est pour...
À qui vous n'avez pas envie de barber avec des histoires qu'on vous a racontées, puisque vous étiez trop petit pour les avoir vécues. Mais en même temps, c'est important de transmettre.
Oui, c'était, pour moi c'était important, surtout à ce moment où dans la famille, soit de mon frère, soit la mienne, nous avons des gens qui se tourneraient vers des options tout à fait différentes de celles de nos parents, et je voulais leur rappeler ce que c'était les leurs.
Avec la particularité qu'on connaît bien, c'est que tous ceux qui ont vécu cette guerre-là n'en parlaient pas.
Peu. J'arrivais à faire parler ma mère, quand elle avait déjà 80 ans, uniquement en voiture. Elle ne me parlait qu'en voiture lorsque je l'amenais à son village natal ou lorsque j'allais la rechercher. Elle ne me parlait pas les autres jours. Elle ne me parlait qu'en voiture.
C'est étonnant, ça.
Ben oui.
C'est qu'en fait, c'est du temps perdu, la voiture, et donc, effectivement, autant répondre à des questions.
Mais oui, parce qu'on allait vers chez elle, donc ça lui rappelait des souvenirs. On revenait de chez elle, elle avait revu du monde, et ça lui avait rappelé des souvenirs, et elle me les racontait.
Alors, ce que je soupçonne dans votre vie, Edouard, c'est que ça vous a marqué, cette ascendance-là, et que ce que vous racontez sur la guerre d'Espagne, c'est documenté.
Je me suis documenté après, bien sûr, mais je m'étais documenté à peu près toute ma vie, quand même. J'y ai toujours pensé à écrire un livre sur elle, sur ce qu'elle avait vécu, parce qu'elle a souffert. Mais elle a travaillé, elle a souffert, mais elle n'a jamais été triste. Elle souriait, elle riait tout le temps. Et elle avait toujours l'envie de vivre.
Alors pourquoi c'est important que vous veniez ici à l'antenne de CFM Caïdus? C'est que nous sommes à moins de 15 kilomètres de Sept-Fons, que Sept-Fons et la gare de Borodon à Montalza ont une place importante dans la mémoire de l'Espagne républicaine, puisque c'est là que des réfugiés espagnols, après avoir quitté le sable d'Argelès ou de Saint-Cyprien, ont été sélectionnés, triés, oui. Séparés. Aussi, puisqu'il n'y avait que des hommes au camp de Sept-Fons, et les femmes étaient quelquefois autour, à Caussade, quelquefois où elles pouvaient, mais essayaient d'avoir des nouvelles de leurs époux, de leurs fils, de leurs frères.
Oh oui, mon père était d'ailleurs au camp de Sept-Fons, il est arrivé tout à fait des premiers. Les baraquements à l'époque n'étaient pas encore tous faits. Il a couché une ou deux nuits sous le préau de l'église.
Rappelons-nous que c'était un hiver très froid et que janvier 39
était très froid
et que les baraquements, ben voilà des planches et voilà des clous. Et puis, quand on fait les baraquements, on les fait pas fermés d'ailleurs.
Oui, ils étaient fermés que sur trois côtés. Et ceux qui dormaient côté
ouvert,
et ils prenaient la pluie, les jours de pluie. Et oui. Ils étaient sur la paille qui n'était pas changée tous les jours. Hein. Il y avait aussi bien des poux que d'autres petites bestioles qui vivaient avec eux.
Alors ça, c'est un choc quand vous apprenez tout ça, hein, parce qu'on ne vous le raconte pas quand vous avez 5 ans.
Oh, si, j'ai toujours entendu raconter. Tout petit. Oui, tout petit. Parce que, si vous voulez, comme mes oncles sont arrivés échelonnés en France, ils ne sont pas arrivés tous en même temps. Mon père est arrivé, avec ma mère, ils sont arrivés au mois de février. Ma mère doit être arrivée la première, le 10, à Montgaillard. Montgaillard du Tarn, hein, c'est juste à côté de Montgaillard de Quercy. Mais c'est Montgaillard du Tarn. Elle est arrivée le 10 ou le 11 février. Et mon père a dû arriver ici le 14 ou le 15.
Oui, rappelons que la chute de Barcelone date à peine de janvier.
Hein. Oui. Et eux, comme ils étaient très près de la frontière, parce qu'ils habitaient quand même à 15 km à la frontière, sont partis les derniers. Jusqu'au dernier moment, ils avaient espoir de rester. Il ne faut pas croire que c'était des soldats sanguinaires. Mes parents étaient des commerçants, c'était plutôt des artisans. Il était boulanger, mon père. Ma mère travaillait dans une usine, un petit village de 2000 habitants. Donc, c'était des gens qui étaient quand même très enracinés dans leur coin. Et ils se sont retrouvés à Montgaillard, tout à fait par hasard.
Alors, la particularité des familles de réfugiés espagnols, mis à part ceux qui étaient des combattants et qui se retiraient et qui étaient désarmés en arrivant, pensant que, en fait, c'est une retirada, mais c'est en fait, c'est pas une déroute, c'est pas une défaite, c'est, on se retire sur des positions préparées à l'avance, éventuellement, pour rentrer, continuer le combat, à un autre endroit des Pyrénées, dans un autre col. Ça, la France ne l'a pas admis depuis Blum et la non-intervention, on savait que serait pas le cas.
Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas plus tard non plus quand ils auraient pu. Mais la France, elle n'a jamais permis aux guerriers de revenir en Espagne. Ils ont, ils ont essayé en 1945, mais ça a été de courte durée.
Au Val d'Aran, oui. On en reparlera d'ailleurs, parce que ce phénomène vous marque dans l'ouvrage.
Oui, parce que j'ai connu les gens qui ont participé. C'était, vous savez, pour en revenir à ça, si vous voulez, il faudrait revenir à cette fois. Ma mère a retrouvé mon père, tout à fait par hasard. La sortie du... Elle travaillait à Montgaillard, à l'épicerie. Et elle avait sympathisé avec l'épicière, avec la fille de l'épicière, ou de l'épicier. Et elle venait tous les dimanches, tous les samedis, au marché à Montauban. Et au marché, quand elles avaient fini, ce qu'elle faisait, elle allait à l'hôpital, voir si d'aller blesser, personne ne connaissait son mari, ses frères. Elle avait tout perdu, elle avait perdu ses cousins, ses frères, tout le monde. Elle savait qu'ils étaient par là, s'ils n'étaient pas morts. Et elle donnait des timbres et des enveloppes timbrées pour qu'on lui écrive avec son adresse dessus. Et ça a été assez rapide. 3 mois après, elle a reçu une carte de cette forme. Mon père était à cette forme.
C'est dingue, hein, assez rapide, trois mois.
Trois mois, oui, hein? Ça a été rapide parce qu'il y en a qui sont restés des années. Hein, ça a été un des premiers à sortir. Parce qu'en plus, les gens chez qui elle travaillait, elle a eu la chance aussi de travailler à l'épicerie où elle était. Le propriétaire était un ancien gendarme et catalan de Perpignan, du Roussillon, dont il parlait la même langue. C'était déjà un avantage par rapport aux gens qui arrivaient de Castille. Et puis, avec le patois, ils se comprenaient très bien, quand même. Et comme elle était très jeune, ils ne voulaient pas croire qu'elle soit mariée. Non, ils disaient, non, tu dis que tu es mariée pour pas qu'on t'embête, pour pas que les garçons du village t'embêtent. Parce que c'est vrai que les garçons du village venaient leur tourner autour. Il y avait plein de filles qui avaient 25 ans. Et ils avaient dit ça. Mais un jour, quand même, il avait dit, écoute, si jamais tu retrouves ton mari, n'importe où qu'il soit, on t'y amènera. Et un jour, elle reçoit la lettre qu'il était à cette fond. Ils ont décidé le dimanche de venir à cette fond. Ils l'ont ramené à cette fond. Elle a fait des provisions. Elle est venue avec des sacs de pain. Vous savez, les grosses miches qu'on faisait autrefois. Et elle est venue au camp de cette fond et un poulet. Et là, il y a une anecdote qui est extraordinaire. Ils appellent mon père avec les haut-parleurs du camp. Il a compris de suite que c'était ma mère qui était à l'entrée. Il s'est précipité. Et ma mère lui a dit, écoute, pour te faire faire je peux te faire faire de suite un contrat de travail dans l'agriculture pour que tu puisses sortir. Mais il m'a faut tes papiers. Et elle y avait porté le poulet, il prend une cuisse de poulet et il s'en va vite à son baraquement chercher ses papiers, sa carte d'identité, tout ça. Les autres qui n'avaient pas vu un poulet depuis longtemps, ils ont sauté dessus, ils lui ont arraché la cuisse de poulet.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
CFM. CFM. Le MAG. Tous les jours.
12h, 12h30.
On est toujours avec Édouard Barthès Auriol à propos de la parution de son livre Lola, des sources du Llobregat au coteau de l'OTAN. C'est un très joli sous-titre d'ailleurs, qui raconte la vie de sa mère, en particulier partie d'un petit village du Haut Llobregat pour finalement vous faire naître, vous, dans le Tarn. Et alors, cette période-là, à partir de janvier-février 39, quand des combattants arrivent en France, il y a aussi des gens qui quittent Barcelone, qui quittent les bombardements, qui essaient d'échapper à cette mort programmée, organisée avec l'aviation de Hitler et de Mussolini, il faut s'en souvenir.
Condor.
La Légion Condor. Là, des gens qui ont quitté les bombardements quand la paix ou la défaite est proclamée, il y en a plein qui se disent « bon, ben, je vais rentrer chez moi ». Vous le racontez, il y en a qui rentrent chez eux, mais on n'en entend plus jamais parler.
Oui, dans les années qui suivirent, mais jusqu'en 47 ou 48, hein, il y en a qui sont repartis en Espagne, croyant la publicité, enfin, ou
la propagande
de Franco, et, comme quoi ils pouvaient rentrer.
Oui.
Ils rentraient pour se faire juger. Et du moment qu'ils avaient porté les armes de la République, les armes du pays, puisque c'était le gouvernement du pays, c'était pas eux qui avaient fait
la
révolution.
C'était pas eux les rebelles. Oui,
c'était pas eux les rebelles. Et du moment qu'ils rentraient, beaucoup avaient été appelés, hein, comme on était en France à l'époque, avaient été appelés. Et du moment qu'ils sont rentrés, ils ont été jugés, s'ils avaient porté les armes, ils ont été condamnés. Mon père n'ayant jamais porté d'armes, s'il était resté homme de troupe, n'aurait pas été condamné. Mais comme il avait été officier, il aurait sans doute été. Peut-être pas, mais ma mère, comme elle faisait partie de elle avait fait partie de la municipalité autoproclamée de la CNT. Dans le village, elle avait été l'équivalent du maire dans le village, mais autoproclamée et anarchiste. Donc, elle a été condamnée à mort, donc ils sont restés ici.
Oui, c'est ce qu'on appelait les collectivisations. Souvent, il y avait des coopératives.
Oui, ils ont été collectivisés, tout. D'ailleurs, je raconte dans mon livre, il y a des collectivités qui sont venues en travaillant jusqu'en France, tous les jours, et reculer et continuer à travailler.
Votre mère, non seulement c'est une personne engagée, mais en plus un caractère.
Oui, c'était quelqu'un qui ne souffrait pas l'injustice. Elle est, comme elle disait, c'est pas la peine d'avoir fait une révolution en Espagne pour accepter la justice en France. Elle l'a pas accepté en Espagne, elle l'a pas accepté en France non plus, et c'est toujours défendu pour elle et surtout pour les autres, parce qu'en définitive, elle travaillait beaucoup plus. Elle se débrouillait toujours, mais elle le faisait toujours pour ses collègues, avec les gens qui étaient avec elle. Je l'ai toujours vu intervenir pour l'un, pour l'autre, alors qu'elle avait rien.
Alors, vous mettez en évidence dans ce livre une chose que connaissent bien les enfants de réfugiés espagnols, c'est que les réfugiés, eux, ils n'allaient pas rester. Jusqu'en 45, c'était la guerre contre le fascisme, comme on est. À partir du moment où les Américains entraient, que Stalingrad a été victorieux, le cours de l'histoire s'est inversé. Et les Espagnols, dans le maquis, se battaient d'autant pour libérer Paris, par exemple, qu'après Berlin, on irait à Madrid.
Exactement. Ils y croyaient vraiment. Et ils ont cru jusqu'en 45, hein, même jusqu'en 46, ils ont cru.
Oui, il y en a même qui disent, c'est pas la peine de semer cette année, puisqu'on ne sera pas là pour la récolte.
J'ai un oncle, puisqu'on avait pris une propriété dans la Grésigne, à la limite à la Grésigne, hein, à une quinzaine de kilomètres. Et j'ai un oncle qui ne voulait pas semer en 43 parce qu'il disait, à quoi bon, on ne sera pas là pour récolter. On sera déjà revenu à Barcelone, donc c'est pas la peine de semer maintenant.
Alors ça, c'est une rupture qui s'est passée avec la génération suivante, parce que à la fois, les réfugiés eux-mêmes, la première génération, ceux qui avaient passé la frontière, se disaient on va repartir. Et en même temps, ils se sont dit, bon, mais mes enfants, il faut aussi qu'ils s'intègrent.
C'était les femmes, c'était pas les hommes. Les hommes, ils voulaient repartir. C'était les femmes qui, elles avaient trouvé la paix. Et elles ne voulaient pas repartir. Ma mère, mon père est mort en 48 et elle a acheté le terrain du cimetière. si bien elle avait rien. Et il s'est fait une collecte de tous les Espagnols, même quelques Français ont participé, pour payer les obsèques. Et avec l'argent qu'elle a fait, elle a acheté la terre du cimetière de Tauriac. Elle ne voulait pas repartir.
On a l'impression d'ailleurs que c'est un jeu de mots que vous n'osez pas. Moi, je vais le oser. C'est la seule fois où elle s'est intéressée à une concession.
Oui, c'est vrai. C'est la seule fois qu'elle a acheté quelque chose, c'est la terre du cimetière. Elle a acheté après, plus tard, sa maison, parce que...
Ah oui, vous l'écrivez d'ailleurs d'un air étonné.
Oui.
À son âge, elle achète une maison.
Oui, elle me fait venir. Juste, je venais d'être opéré du cœur. Elle me fait venir chez elle. Elle me dit, écoute, la maison, ils veulent la vendre. Moi, il y a 40 ans que j'y habite ou 30 ans que j'y habite. Je veux pas partir, on va l'acheter. Je vais faire un emprunt, tu vas me servir de caution. Ben voilà, ça s'est passé comme ça, à 5 minutes, hein. Voilà.
Alors, ce qu'il y a de remarquable aussi dans votre livre, c'est que les accidents de la vie font que aujourd'hui, ben, les mariages durent pas toute une vie. On peut se séparer, mais bon, de cette union, ils sont quand même nés des enfants qui peuvent se poser des questions suivant avec qui ils ont grandi, le père ou la mère, qui eux-mêmes ont des enfants. Et quand on transmet, ben, on transmet pas forcément ce qui a préoccupé les générations précédentes.
Non.
Votre livre, c'est sa mission. En fait.
Oui, c'était pour les intéresser à ça. Mais je pense que ce soit ma fille ou mon neveu, ils ont tous été quand même assez près de tout ça parce qu'ils ont vécu avec la grand-mère. Et la grand-mère, elle leur donnait toujours, même s'ils ne l'ont pas toujours écouté, ce sentiment de liberté qu'elle avait eu en France. Elle avait l'honnêteté. Parce que j'avais une mère qui... Je pouvais ne pas travailler bien à l'école, elle l'aurait accepté. Mais si j'avais volé à l'école, ça, elle ne l'aurait pas accepté. Elle me disait souvent, que tu ne travailles pas, je m'ennuyais à l'école. Vous savez, quand on a vécu à la campagne et qu'on se retrouve pensionnaire dans une ville où je parlais pas trop bien le français, parce que je parlais plutôt le patois que le français, et je me retrouve pensionnaire dans une ville, je m'ennuyais beaucoup. Je ne travaillais pas très bien parce que je pensais aux champignons, je pensais à autre chose. Mais c'est vrai, je pensais à Tauriac, je pensais aux champignons, et je pensais à tout ce qu'on pouvait faire à la campagne. Donc, elle me disait toujours, bon... Même si tu es à peine la moyenne, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te comportes bien.
Voilà. Est-ce que vous diriez d'elle que c'est une vie d'engagement qu'elle a eue ?
Oui, oui. Elle y a cru toute sa vie. Elle, c'est un engagement personnel, mais elle y a cru toute sa vie. Quand elle revenait en Espagne, même plus tard, elle y est revenue après la mort de Franco.
Bah oui.
Mais quand elle est revenue en Espagne, même plus tard, tout le genre au village savait qu'elle n'avait pas perdu ses convictions. Elle leur a dit à tous, en leur regardant droit dans les yeux. Elle est même allée voir une de ses amies qui était à la maison de retraite tenue par des nonnes et qui avait été, comme elle, anarchiste et qui portait une croix. Elle lui a dit, qu'est-ce que c'est cette croix ? Et son amie lui a répondu, écoute, je suis dans un couvent, si je veux être à peu près soigné, je suis obligé d'avoir une croix. Et il a dit, tu sais, tu as eu de la chance de partir, parce que nous, on a été obligés de l'embrasser quelquefois, la croix.
Un ouvrage, Lola, des sources du Llobregat au coteau de l'OTAN, de Édouard Barthes Oriol. Vous dédicacerez cet ouvrage le samedi 19 avril de 10h à 18h à la librairie Baroul. Pourquoi vous venez à Caylus ? Vous avez des attaches dans les environs ?
Oui, j'ai de grandes attaches dans les environs. D'abord, ma femme est de la région, elle est de Vidaillac, c'est-à-dire au-dessus de Caylus. Et mon beau-frère est commerçant à Caylus. Je suis un week-end sur deux à Caylus pour acheter la dépêche de Toulouse, parce que j'habite à Toulouse, donc je viens acheter la dépêche de Toulouse chez monsieur et madame Baroul. Donc, c'est des gens que je connais bien et que je côtoie régulièrement.
Votre ouvrage, on peut le trouver dans toutes les librairies ou on peut le commander ?
On peut le commander, on peut le trouver dans toutes les librairies. Je suis la semaine prochaine encore au Centre Leclerc, Sapiac, à l'espace culturel. Et je suis toujours en train de tourner par là avec mon livre. Mais maintenant, on peut aussi le commander sur Amazon et tous les autres. Hein. Je dis Amazon, mais il y a Fnac et compagnie, et chez tous les libraires d'ailleurs.
Édouard Barthes-Rognon, je vous remercie.
Et bien, avec plaisir.
Le mag du Kerserouerg, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM. Soleil.